je considère le chômage de masse comme la situation la plus grave que peut connaître une démocratie en temps de paix.
Déclaration de l'économiste français Jean-Paul Fitoussi sur nos ondes le 1er mai dernier, jour de la fête du travail. En cette période de crise, la rigueur, mais est-ce la solution ? Pour l'Organisation internationale du travail, celle-ci conduit à une faible croissance, à des destructions d'emplois, sans pour autant avoir réduit de façon majeure les déficits budgétaires. En France, la croissance, la rigueur, l'emploi furent cette semaine au cœur des débats entre les candidats socialiste et de l'UMP du second tour de la présidentielle. Ont-ils les moyens de changer la donne ? La réponse de Jean-Paul Fitoussi, directeur de recherche à l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Il est à peu près évident maintenant que la solution du problème de l'emploi ne peut être trouvée que par une modification de la Constitution européenne. Car les présidents élus n'auront pas les instruments qui leur permettraient de poursuivre une véritable politique de l'emploi. Ni la monnaie, ni le change, ni le budget, puisqu'ils sont contraints par les traités européens. De sorte que je ne vois pas comment on pourrait aboutir à une solution de ce problème si l'on n'arrivait pas à renégocier les traités européens.
Élection générale en Serbie ce dimanche, là aussi sur fond de crise économique. Depuis 2008, le chômage est passé de 14 à 24% de la population active. Belgrade a besoin de s'ouvrir à ses voisins, à l'Europe, pour s'en sortir. Et pour la première fois avec ces élections, on note la fin du clivage pro et anti-Union européenne. Jacques Rupnik est professeur à Sciences Po Paris.
Il n'y a plus les démocrates pro-européens, entre guillemets, d'un côté, et les nationalistes et populistes de l'autre. C'était la simplification qui prévalait lors des dernières élections. Le tableau est plus nuancé aujourd'hui. C'est intéressant de voir comment un parti nationaliste, qui avait une rhétorique plutôt anti-européenne, qui se méfiait de l'ingérence des institutions internationales, qui aujourd'hui adoucit son propos sur l'Europe. Monsieur Nikolic a aussi subi une évolution et il va aussi, lui, de temps en temps à Bruxelles. Il essaye de présenter un nationalisme à visage humain qui ne remettrait pas en question la perspective à long terme de l'adhésion à l'Union européenne.
Autre scrutin en Égypte, la présidentielle aura lieu fin mai dans un contexte de violence. 20 manifestants tués encore ce mercredi au Caire. Trois principaux candidats s'affrontent, un ancien secrétaire de la Ligue arabe, un ancien ministre des Affaires étrangères de Moubarak, un membre des Frères musulmans. Sauront-ils s'imposer auprès de la population ? Toufik Aklimando, ses professeurs au Collège de France.
L'opinion égyptienne veut trois choses des candidats. D'une part, un candidat indépendant et au-dessus des partis. D'autre part, un candidat qui soit plutôt soit musulman très conservateur, soit islamiste. Et elle veut enfin un candidat qui a une grande expérience pour qu'il ne fasse pas trop de bêtises. Je ne pense pas personnellement qu'un président sera élu dès le premier tour, mais je me trompe peut-être. De toute façon, l'institution militaire restera en Égypte l'institution la plus puissante, celle qui contrôle beaucoup de choses, une de celles qui sont encore plus ou moins respectées par beaucoup d'Égyptiens, qu'elle n'a pas vraiment besoin de garder le contrôle nominal d'un exécutif où elle prend tous les coups.
Depuis une vingtaine de jours, près d'un tiers des détenus palestiniens en Israël sont en grève de la faim. Ils dénoncent les détentions administratives arbitraires dont ils font l'objet, enfermés sans procès pour des durées éternellement renouvelables. Un combat pacifique dont tant n'ont que faire. Les explications de Bichara Kader, le directeur du Centre de recherche sur le monde arabe à l'Université catholique de Louvain.
C'est une forme de résistance pacifique des Palestiniens qui doit être soutenue par toutes les organisations et prises de paix. Maintenant, je doute fort qu'Israël soit sensible à de telles pressions. Je vous fais remarquer que les Israéliens ont été bien plus habiles à lancer une campagne médiatique pour libérer le soldat israélien détenu par une organisation palestinienne. Les parents de ce chalit ont été reçus par les plus hauts dirigeants de la communauté internationale, tandis que le sort de 6000 détenus palestiniens dans les geôles israéliens, eh bien, ça n'a pas l'air de susciter une émotion particulière. Je trouve ça particulièrement choquant.
Droits de l'homme, l'Union européenne s'inquiète de l'incarcération, de l'état de santé aussi de Yulia Tymoshenko en Ukraine. Afin de libérer l'ancien Premier ministre et les prisonniers politiques en général, les acteurs de Bruxelles promettent de bloquer la coopération avec Kiev, pire de boycotter l'Euro de football 2012 qui démarre en juin prochain. Annie de Banton est journaliste, essayiste, spécialiste de l'Ukraine.
Ce qui est bien, je dirais, c'est que ces pressions n'ont pas lieu à la veille des Jeux, ce qui donne au pouvoir ukrainien, normalement, la possibilité de se retourner et de débloquer cette situation, au moins sur la libération des prisonniers politiques, et également donner des signes d'apaisement sur le plan démocratique, parce qu'il y aura des élections parlementaires très importantes à l'automne. Et là, il faut vraiment que l'Ukraine, si elle veut regagner l'intérêt de l'Europe, du FMI et des États-Unis, elle a intérêt à faire quelques gestes, quels qu'ils soient, pour montrer qu'on a au moins compris le message.
Enfin, toute cette semaine, les épisodes à rebond de l'affaire Cheng Wancheng, ce dissident chinois aveugle. Une affaire embarrassante alors qu'Hillary Clinton était en Chine pour convaincre Pékin de changer ses règles monétaires. Mais pourquoi donc, Christophe Destet, économiste et directeur adjoint du CEPI à Paris.
Le marché chinois serait plus ouvert aux intervenants étrangers. Les banques, les sociétés d'assurance américaines pourraient espérer prendre des parts de marché. Et puis, cela signifierait aussi que la banque centrale perdrait le quasi-monopole de l'investissement de l'excès d'épargne chinois à l'étranger. Les Américains pourraient placer leurs titres, notamment publics, auprès d'une multitude d'intermédiaires financiers chinois qui seraient des petites banques chinoises, des fonds d'investissement qui les sortiraient probablement de ce dialogue difficile entre un débiteur unique et un créancier unique.